Berger.
Il est 15h03 sur Europe 1, l'heure de retrouver votre émission Sans rendez-vous avec Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1, Sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors je ne le présente plus, tous les jours je dis ça, je vais changer quand même. Je vous présente,
non, monsieur, ça me va.
C'est le docteur Jimmy Mohamed, bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Allez, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons vous faire du bien, parce que soyons honnêtes, en ce moment c'est pas terrible, hein. Nous sommes tous concernés par cette pandémie et même si nous ne la vivons pas tous de la même manière, le stress ambiant gagne beaucoup d'entre nous. Pourtant, ce n'est pas une fatalité, nous dira notre invité du jour. Nous recevrons le psychiatre Michel Lejoyeux qui va nous parler de son dernier livre, Les 4 temps de la Renaissance, chez J.C. Lattès, une véritable grammaire émotionnelle qui nous enseignera comment surmonter le passé, regarder le présent sans angoisse et anticiper le futur. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. On va s'intéresser à quelque chose que vous avez peut-être déjà eu. C'est très fréquent, la bronchite. On parle beaucoup de Covid, mais il ne faut pas oublier que d'autres pathologies de saison sont encore là, quoique peut-être un peu moins. Enfin, le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Et puis vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de coups de foudre.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la question de Martine, on l'écoute.
Voilà, c'était pour poser une question au docteur Jimmy Mohamed. Voilà, c'est au niveau de mon épine carcanéenne au talon droit. Je n'arrive pas à soigner. Merci beaucoup.
Alors Jimmy, on a très peu parlé de ce problème jusque-là, mais là il se trouve que ça fait deux fois en très peu de temps qu'on a des auditeurs qui nous posent des questions sur l'épine calcanéenne. Jimmy, d'abord rappelez-nous peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas ce qu'est une épine calcanéenne.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de votre pied, vous avez une membrane qu'on appelle la ponévrose plantaire. Cette membrane, elle va recouvrir votre talon et aller jusqu'à vos orteils. Si vous marchez beaucoup, si vous sollicitez beaucoup cette membrane, il va y avoir de l'inflammation liée au frottement qui va aboutir à une calcification. Et cette calcification va entraîner la formation d'une épine, un morceau d'os qui va pousser en quelque sorte,
qui ressemble à une épine,
au niveau du talon et qui peut faire très mal ou, attention, ne jamais faire mal.
Ah bon, ça, parfois on le sent pas du tout.
Parfois on le découvre de manière fortuite lorsqu'on vous fait une radio ou si vous faites une entorse de cheville.
Pour je ne sais quoi,
on se rend compte que vous avez une épine calcanéenne, mais si jamais celle-ci ne vous a jamais fait souffrir, eh bien il faut la laisser tranquille et ne surtout la traiter par l'ignorance.
D'accord, alors Martine qui nous a laissé ce message nous dit qu'elle peine à guérir ce problème. On peut évidemment pas faire une consultation spéciale pour Martine à la radio, c'est interdit de toute façon. Mais Jimmy, d'un point de vue général, comment ça se traite? Comme ça au moins elle aura peut-être une idée de ce qu'elle a essayé ou pas, Martine.
Alors c'est fréquent déjà chez les personnes qui vont marcher beaucoup, mais aussi chez certains sportifs comme les basketteurs, ou lorsqu'on a des problèmes de chaussures. Lorsqu'on a des problèmes avec ses chaussures, ou lorsqu'on a un petit peu d'embonpoint, lorsqu'on vieillit notamment.
Les chaussettes de l'archidiaque.
Sont-elles sèches? J'allais chez
l'orthophoniste. On va travailler un peu ce week-end.
Et du coup, l'idéal, lorsque vous avez mal dans un premier temps, c'est de mettre le pied au repos, de prendre éventuellement des anti-inflammatoires. Alors attention, car quand on est un peu âgé, les anti-inflammatoires peuvent être contre-indiqués. Donc mettre de la glace lorsque c'est douloureux, ne pas hésiter à mettre des semelles orthopédiques qui peuvent soulager la douleur. Et lorsque tout ça ne marche pas, il est possible de faire une infiltration à base de corticoïdes pour calmer l'inflammation. Donc je recommande à Martine d'aller voir son médecin traitant.
Merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est la question de Valérie. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous téléphone, en fait, on entend de plus en plus parler de patients qui souffrent pendant des mois de symptômes du Covid. Donc en fait, ça voudrait dire qu'ils ont de la fièvre pendant tous ces mois-là. C'est quoi exactement les symptômes?
Alors le Covid long, Jimmy, effectivement, on en parle de plus en plus, même si on sait qu'on en découvre encore tous les jours sur cette maladie. Elle parle de, c'est pas de la fièvre pendant, deux mois, trois mois, c'est pas ça. Hein.
Non, effectivement, c'est des symptômes persistants après avoir eu le Covid. Alors évidemment, lorsque vous avez fait une forme grave et que vous allez en réanimation, vous allez avoir des séquelles probablement du
Covid.
Liées à la réanimation. Et aux soins lourds. En revanche, dans le Covid long, c'est des personnes qui vont avoir une forme légère à modérée, qui ne vont pas aller à l'hôpital et qui, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois après l'infection, vont garder des symptômes à type de fatigue.
Trois semaines après, j'ai toujours mal à la tête.
Exactement, des maux de tête, des troubles de la...
Mais c'est pas Covid long, encore trois semaines, il y a des gens, c'est bien pire.
Certains, c'est plusieurs mois. Ouais. Des troubles de la concentration, un essoufflement au moindre effort. Et le paradoxe, c'est que tous les examens qu'on va leur pratiquer sont normaux. Et donc, le médecin traitant va vous dire, écoutez, votre radio de thorax est normale, votre prise de sang ne montre pas d'inflammation, mais vous avez des symptômes qui sont subjectifs et pour lequel, pour l'instant, on ne sait pas du tout quoi faire.
Est-ce qu'il y a d'autres infections comme ça qui causent des fatigues, mais qui va des fatigues ou des symptômes persistants qui durent longtemps?
Alors, c'est commun d'ailleurs au coronavirus. Le SRAS donnait la même chose. Le MERS-CoV, le virus du Moyen-Orient, donne aussi des fatigues prolongées pendant plusieurs mois, et ça, on le sait. Vous avez d'autres infections comme la mononucléose qui vont donner ce qu'on appelle un syndrome post-infectieux. Vous allez garder une fatigue, mais là, ça semble un peu différent. Et encore une fois, on ne comprend pas bien le mécanisme. Et malheureusement, on n'a pas de traitement à proposer aux malades. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les examens et qu'on s'est assuré que vous n'avez pas de problème de poumon, pas de problème de rein, que votre cœur marche plutôt bien, que l'auscultation est normale, que la prise de sang ne montre pas d'inflammation, eh bien, on ne sait pas quoi vous proposer.
On n'a pas la solution. Ouais. Jimmy, je sais qu'il y a un conseil quand même que vous donnez, et d'autres experts d'ailleurs le font aussi, c'est d'avoir quand même un suivi pneumologique à distance de l'infection. C'est important peut-être presque pour tous les patients.
Exactement. Hein. Même si vous n'avez pas beaucoup toussé, je vous recommande d'aller voir votre médecin 15 jours, 3 semaines, 1 mois après l'infection pour vérifier qu'il n'y a pas d'inflammation à l'auscultation, car au moindre doute, vous aurez un scanner pour être sûr qu'il n'y a pas de lésion de fibrose. La fibrose, c'est un peu l'équivalent de la cirrhose du foie. C'est des séquelles pulmonaires qu'on peut traiter, qu'on peut stabiliser pour éviter d'aboutir à une insuffisance respiratoire par la suite.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous cet après-midi. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Michel Lejoyeux, bonjour.
Bonjour et merci de cette invitation.
Ah ben oui, vous êtes, je le rappelle, même si vous êtes un habitué de l'émission, je ne sais même pas pourquoi je vous présente, vous aussi. Vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris. Et puis l'auteur du livre, donc Les Quatre Temps de la Renaissance, publié chez J.C. Lattès. Alors un livre qui s'inscrit complètement dans l'actualité puisque sa promesse, c'est de nous faire sortir du marasme ambiant, de nous faire renaître même. Mes professeurs parlaient de renaissance honnêtement en ce moment, entre nous, hein, on est juste entre nous, c'est pas un petit peu provocateur parce que tout va mal franchement. Le Covid, alors je sais pas quand exactement vous avez écrit ce livre, première vague, là on a la deuxième qui démarre, on va renaître vraiment, c'est possible?
Je crois que c'est le bon moment de commencer à s'intéresser, de continuer à s'intéresser un peu à la santé et de son corps et de son esprit. Vous savez, on applique les gestes barrières, je suis extrêmement satisfait qu'ici on soit très vigilant, qu'on mette le masque, qu'on soit prudent. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi des pensées, des petites actions barrières qu'on peut faire au quotidien qui vont protéger notre esprit. Ça ne va en rien se substituer à ce qui est indispensable concernant la circulation du virus, mais prenons des choses validées scientifiquement, validées par des recherches sur le cerveau et la psychologie, et faciles à appliquer.
On va détailler ça, mais dans votre livre, vous proposez une grammaire émotionnelle avec des temps. Donc moi, je connais la grammaire, le passé, le présent, le futur, mais comment est-ce qu'on fait pour conjuguer nos émotions ?
Alors, l'idée, c'est que dans ces moments d'angoisse, on perd un peu ses repères. On ne sait plus bien, on a des effractions du passé qui vont venir nous angoisser. Le présent, on ne sait pas trop comment s'y intéresser.
Le futur, on ne le regarde même pas.
Regardez, regardez vos annonces, ce qui vous dit sur le futur. Et j'ai proposé un autre temps, un dernier temps, qui est le gérondif, qui est un vieux temps français, c'est l'instant présent. Moi, j'ai le sentiment que si on reprend, avec quelques expériences assez faciles, la main, si j'ose dire, sur nos temps, on a, et c'est finalement tout le travail de la psychologie, on a une manière d'aller mieux.
Alors justement, on va entrer dans cette grammaire émotionnelle que vous nous proposez aujourd'hui, et on va commencer peut-être par le passé, justement, d'arriver à le dépasser, ce passé récent, c'est peut-être, on parle de la première vague, là franchement, le printemps dernier, c'était horrible, je vois pas pourquoi j'aurais envie d'y repenser, moi j'ai juste envie de l'oublier, mais vous dites que non, c'est pas toujours la solution.
C'est pas toujours la solution, vous savez, j'ai beaucoup regardé en faisant ce livre, toutes les techniques validées pour mettre à distance le passé. Les philosophes grecs proposaient la catharsis. On a une image qui nous fait sortir l'angoisse. La nostalgie, c'est une petite chose, c'est très bien. Gardez vos vieilles affaires, gardez vos vieux disques. Ça marche bien puisque finalement, vous gardez des souvenirs d'avant la pandémie. Et
vos vieux t-shirts, Jimmy, c'est ça? C'est une bonne chose,
oui,
en fait.
J'ai des cartes Dragon Ball Z, par exemple, qui me rappellent une époque.
Surtout, ne les jetez pas. Voilà. Elles sont d'une protection, certainement pas contre le Covid, mais contre le stress du Covid.
Mais veut les jeter à la poubelle. Je dis non, surtout pas les cartes. J'y jette tout, sauf...
Dites-lui que c'est une ordonnance médicale.
Très bien.
Alors, il y a quelque chose qui est peut-être un tout petit peu plus validé que les cartes Dragon Ball Z, à peine. Hein. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'écriture expressive.
Dites-nous ce que c'est. Ouais.
C'est une technique psychologique. C'est-à-dire que vous allez prendre dans votre passé récent des souvenirs qui sont à la fois des souvenirs chauds et des souvenirs froids. Vous allez prendre trois souvenirs, un souvenir chaud, un souvenir qui vous a ému, qui vous a angoissé, et un souvenir froid. Et vous allez l'écrire.
Chaud, il faut qu'il y ait de l'émotion. Et froid, ouais. C'est un peu distance.
Froid, c'est un peu neutre. Ça veut dire qu'il y a des situations.
Donnez-nous un exemple, peut-être. Je sais pas.
Chaud, ça peut être des moments où c'est par exemple inquiété pour ses enfants. Vous voyez, où on s'est demandé si on allait.
Où on a eu un parent malade.
Où on a eu un parent malade, ou si on a continué à travailler. Et puis froid, ça a été des moments, parce qu'ils ont existé aussi, de tranquillité, de sérénité, des moments même pas forcément très agréables, mais un peu vides, qui nous montrent que finalement le passé qu'on a traversé.
Oui, non, elle dit c'est maman qui parle toute seule, excusez-moi.
Le passé, j'adore l'idée de parler avec votre mère. Mais, et en plus, elle ne comprend pas, mais on va lui réexpliquer. Le passé que nous avons traversé n'était pas toujours angoissé. Alors, si vous avez du mal, justement, à retrouver ces souvenirs, vous pouvez vous servir, et c'est là encore la technique de l'écriture expressive, de ce qu'on appelle des mots gâchettes.
Ah, c'est quoi un mot gâchette ? On le dégaine, en tout cas, apparemment.
Enfant, famille, ah oui. Actualité, confinement. Il suffit que je vous dise ces mots-là pour que dans votre esprit se forment immédiatement ces souvenirs. Et la troisième chose sur cette écriture, c'est bien de se faire un petit rituel d'écriture. De choisir un moment, un endroit où on écrit. Est-ce que c'est sur un ordinateur ?
C'est pas forcément sur un bureau, d'ailleurs. Hein.
Non, vous savez, il y a des tas d'écrivains qui disent « J'adore écrire ailleurs que dans un bureau. J'adore écrire à la va-vite, justement. »
C'est Modiano, hein, je crois qu'il dit ça, vous en parlez dans votre livre.
Ah, j'adore cette idée de Modiano qui dit « J'ai un bureau, mais c'est un endroit beaucoup trop cérémonieux pour écrire. Je descends au café d'en bas. »
Bon, en ce moment, c'est moins...
En ce moment, si, c'est encore heureusement possible. Donc, voyez, on va faire cet exercice. 15 minutes, 3 jours de suite, et finalement, on écrit sur son passé et on s'aperçoit qu'il n'est pas aussi dramatique qu'on l'a cru. Et si en parallèle, on cultive un peu cette nostalgie, on garde les vieux objets poussiéreux, vous voyez, si vous faites les deux, vous commencez finalement à reprendre un peu la main ou le contrôle, j'allais dire, sur ce passé qui vous apparaît terrible.
Et du coup, au bout de combien de temps, on peut peut-être se sentir un peu apaisé, hein, en tout cas.
C'est ça, tous les jours, 15 minutes.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que les études qui l'ont testé, hein, tout ça vient d'études complètement validées, montrent qu'au bout d'une semaine, avec 15 minutes par jour...
Si peu, c'est bien.
C'est pas magique. Hein. Je ne dis pas que ça va traiter les malades que nous soignons dans nos services et les plus malades. Mais au bout d'une semaine, on va commencer à mettre un petit peu à distance ce passé difficile.
Professeur Lejoyeux, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et donc, notre invité aujourd'hui, c'est vous, professeur Michel Lejoyeux. Vous êtes chef de service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris. Et vous venez d'écrire donc les 4 temps de la Renaissance, c'est chez J.C. Lattès. Alors aujourd'hui, on apprend donc la conjugaison, mais d'un point de vue émotionnel avec vous. On vient de parler du passé, on va passer à présent au présent. Vous démarrez le chapitre sur le présent, justement, dans votre livre, en disant que depuis la pandémie, finalement, même les plus allergiques à la psychologie s'extasient complètement sur l'instant présent, sur des toutes petites choses. Mais je ne comprends pas pourquoi vous, qui aimez bien les petits plaisirs, les petites choses qui nous font du bien, ça vous agace ?
Ça m'agace parce que, d'abord je suis un peu content qu'on reconnaisse l'importance des émotions. Hein, tout le sujet du livre, c'est de dire qu'en parallèle des gestes barrières, on a des pensées, des comportements, des émotions barrières. Ça, c'est indiscutable. Mais l'obsession anxieuse de... Est-ce qu'on l'a vécu totalement intensément, ouais, cette émission ? Est-ce qu'on est allé au fond de tout ce qu'on pouvait ?
Est-ce que j'ai bien senti cette fleur ?
Voilà. Je pense que là, dans un moment assez anxiogène comme on le vit, il faut se détendre un tout petit peu. Et il faut être capable de se relâcher un peu, je veux dire, de ce perfectionnisme de l'instant présent qu'on a tellement connu à certains moments.
Et pour renaître dans ce présent qui est angoissant, vous proposez de rêver, mais de rêver de façon volontaire, c'est-à-dire... Quoi, 10 minutes par jour, on se laisse abandonner dans nos pensées en pensant qu'on est, je sais pas, qu'on a gagné une belle voiture ou des choses peut-être un peu plus...
On pense à rien, je crois, justement.
On pense à rien.
Oui, en tout cas, ça vient d'une étude tout à fait validée qui a comparé les personnes qui avaient une aptitude à l'esprit vagabond. On appelle ça en anglais le mind wandering, l'esprit qui se balade un peu, et ceux qui ne l'ont pas. Et on s'est aperçu que la capacité à décrocher tout ce qu'on n'apprend pas à nos enfants, la capacité à être inattentif de temps en temps, à être tête en l'air, était une capacité protectrice. Dans les moments de stress, si vous êtes en permanence concentré sur le stress, vous vous épuisez. Si vous vous ménagez des petites respirations, des petits moments d'inattention, finalement vous vous protégez. Alors soit vous êtes naturellement une grande rêveuse ou un grand rêveur, et dans
pas
ce cas-là, vous,
hein. Jimmy non plus, je crois pas, hein, ouais.
Vous n'écoutez pas ce conseil. Si vous êtes plutôt hyper vigilant vis-à-vis du présent, vous devez, de manière un peu volontariste, faire un exercice, là encore pendant 10 minutes, en accueillant toutes les pensées qui vous viennent. On ne va pas aller en chercher. On ne va pas faire une rêverie, ce qu'on appelle orientée vers des choses positives. On laisse tout venir. Il va venir des choses agréables
ou désagréables. On se met au calme, sans enfant, sans téléphone, sans rien.
Sans téléphone, sans ordinateur. Et au fond, on peut se faire aider d'une musique. Vous savez, il y a des musiques planantes. Chacun a la sienne, celle qui lui permet de décoller.
Jimmy, c'est Booba, je crois. Mais...
oui, je ne plane pas trop avec Booba. J'ai un peu d'énergie, mais j'aime bien le concept hein, de se dire oui, un peu de musique. Et un peu de musique. On pense à rien.
On pense à rien, on laisse venir les pensées et on peut aussi se faire aider d'un texte. Vous savez, des textes un peu poétiques, un peu rêveurs. Là aussi, pendant 10 minutes, c'est comme si, vous voyez, les poumons soufflent, et ben l'esprit, le cerveau va un petit peu souffler. Et il va y avoir deux leçons à ça. On va s'apercevoir déjà que notre esprit, on n'est pas obligé de tout contrôler en permanence, hein, qu'on peut lâcher prise un petit peu. Et puis ce qui va nous traverser le cerveau ou l'esprit à ce moment-là, c'est ce qui est vraiment important pour nous. Vous voyez, c'est aussi une sorte d'exercice d'auto-révélation. Quand vous ne vous contrôlez plus, ce qui continue à rentrer dans vos pensées, c'est ce qui compte et ce qui vous anime.
Et je crois même que vous dites dans votre livre que ces moments volontaires d'inattention, ils peuvent même stimuler notre création, nous aider à préciser nos projets, alors que vous nous dites, bon ben, pour ceux qui arrivent, de penser à rien. Donc comment on devient créatif sans penser à rien ?
On s'aperçoit bien, si vous voulez, quand on est sur un travail important, vous ne pouvez pas être concentré. Quand vous préparez votre émission, vous la préparez pendant une heure, et après vous allez vous détendre. C'est dans l'alternance entre concentration et détente qu'on a la créativité et la productivité. L'effort permanent finit par être une espèce
de burn-out après.
Voilà, de rumination intellectuelle.
Vous proposez pour un présent un peu plus serein de cultiver les rituels, alors à condition, je suppose, qu'ils ne soient pas toxiques.
Question de fumer, de boire de l'alcool tout le temps.
Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour illuminer notre présent justement avec des rituels qui sont souvent assez... simple. Hein.
Alors, on a des rituels simples et à notre portée qui sont sympathiques. C'est quand même les rituels de l'alimentation. On peut prendre des moments. On va prendre une boisson chaude, on va prendre un aliment. Vous savez, je me suis aussi amusé à regarder quels aliments apparaissaient. Alors, il n'y a pas d'aliments euphorisants, il n'y a pas d'aliments
qui
vont
faire... Oui, mais il y a une recette miracle quand même dans votre livre. Alors, donnez-nous là peut-être à peu près quand même.
Alors, elle est miracle. Je vous promets que si vous le mangez, vous n'allez rien ressentir après.
Immédiatement.
Sinon, je change de métier.
Mais elle contient trois aliments qui sont très intéressants quand même.
Voilà, mais cette recette, elle contient trois aliments dont on dit qu'ils sont vraiment très liés aux émotions positives. Les isoflavones, qui sont contenus, alors je vous prends la recette hein, telle qu'elle est dans une étude qui vient tout juste de sortir. Il y en a beaucoup dans le tofu.
Alors là, pour l'instant, ça ne me fait pas foufou. Moi, mais...
jusqu'à maintenant, je n'ai convaincu personne.
Le tofu, pour nous, c'est pas foufou. Voilà, Jimmy et moi.
Vous rajoutez avec du magnésium, parce qu'on a absolument besoin de magnésium, et le mieux pour le magnésium, c'est le chocolat.
Ah voilà, tofu au chocolat, ça commence à être plus sympa.
Ça commence à rendre la gueule, là. Oui.
Beaucoup de chocolat et un tout petit peu de tofu. Et la troisième chose dont on s'aperçoit que c'est vraiment un protecteur de nos émotions, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Donc vous allez pouvoir ajouter
tout ça.
Peut-être pas un légume, mais un petit fruit sympathique, du chocolat, puis un tout petit peu de tofu. Hein. Vous n'allez pas en mettre trop. Et en tout cas, vous allez aussi le manger dans certaines conditions. C'est-à-dire vous allez le manger tranquillement, en étant concentré sur le goût, en le mangeant avec lenteur. Et ce moment-là va être un petit moment où vous allez vous abstraire du présent inquiétant.
Nouveau rituel du présent. Donc le tofu soyeux au chocolat tous les dimanches, Jimmy. Il faut faire un rituel. Professeur Le Joyeux, on va faire une courte pause, on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, professeur Michel Lejoyeux. Vous êtes chef du service de psychiatrie d'addictologie à l'hôpital Bichat et vous êtes surtout, c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, l'auteur des Quatre Temps, Les Quatre Temps de la Renaissance, publié chez J.C. Lattès. Alors on va passer à un autre temps à présent, le futur que vous allez nous apprendre à conjuguer plus paisiblement. Un futur apaisant, vous dites, c'est ce qu'on a le plus perdu depuis cette pandémie. On n'ose presque même plus en parler. C'est ce que je vous disais d'ailleurs pendant le disque. Hein.
Bien sûr.
Le futur, franchement, c'est tabou.
Le futur est totalement, totalement imprévisible, mais c'est sur le futur, la bonne nouvelle, qu'il y a peut-être le plus d'études et d'expériences qui nous aident à mieux le supporter. La première, c'est de faire la différence entre les objectifs à court terme, vous voyez, on ne sait pas ce qui va se passer à Noël, on ne sait même pas ce qui va se passer dans 15 jours, et les valeurs à long terme. Les valeurs à long terme, c'est ce qui fonde notre vie, c'est les personnes qui comptaient déjà avant la pandémie, qui compteront après, c'est les causes pour lesquelles on s'engage. Vous savez, il y a une métaphore qui est celle du chauffeur d'autobus. Le chauffeur d'autobus, il va du départ à l'arrivée, il va rentrer des voyageurs, agréables ou désagréables, lui, il a un objectif, c'est d'amener son bus au terminus. On donne cet exemple-là en thérapie. Vous êtes comme un chauffeur de bus. Il va se passer des tas de choses. Je ne sais pas quel événement va rentrer ce soir dans nos vies, quelle émotion va rentrer, mais nos valeurs à long terme, nous allons les garder.
Je vois de plus en plus de patients très stressés par la période actuelle avec l'absence de perspective. Et j'en ai vu une ce matin. Je lui dis, mais vous inquiétez pas, tout ça finira par s'arrêter. Il y a bien un moment, on va reprendre le cours normal de notre vie. Ça ne va pas durer de façon indéfinie. Donc, se projeter au loin en essayant peut-être de cultiver un peu l'optimisme du moment présent. Est-ce que ça permettrait d'éviter de se projeter? Parce qu'à 10 jours, on ne sait même pas si les écoles vont rester ouvertes. Où est-ce qu'on ira ou pas en vacances?
Est-ce qu'on va être reconfiné?
C'est vrai qu'on a ça au-dessus de notre tête, hein. Couvre-feu ou pas, mais c'est compliqué.
On a deux dimensions psychologiques qui vont nous aider à survivre. La première, c'est la tolérance à l'incertitude. Ceux qui tolèrent un avenir incertain, qui de toute façon est notre lot aujourd'hui, y arrivent mieux. Il y a des petits exercices que donnent des psychologues américains. Il faut s'entraîner à déléguer. Vous voyez, quand on délègue une tâche, même une tâche simple, on ne sait pas exactement comment elle va être faite. Résoudre un conflit immédiatement. Accepter au fond des choses qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Il y a même un psy américain qui dit, vous achetez un billet de loterie ou que sais-je et vous allez le garder dans votre poche un certain temps sans regarder s'il est gagnant ou pas.
Impossible pour moi.
Vous entraîner comme tolérer l'incertitude. Et puis, on peut entraîner son optimisme de l'instant présent, malgré les difficultés.
À l'université de Boston, je crois qu'ils le font de manière très pratique.
À l'université de Boston, ils font ça comme un vrai soin, comme un vrai traitement, avec 3 activités qu'on fait chaque semaine pendant 30 minutes. La première, on dit merci. On écrit une lettre de gratitude. On choisit à qui ? On choisit de quoi ? On dit merci. Vous écrivez à Europe 1 tous les jours ou toutes les semaines pour leur dire merci. La deuxième chose, on repère chez soi une qualité qu'on n'avait pas forcément vue avant et on la met en action. Et la troisième chose, et c'est vraiment, plutôt que d'avoir des grands moments dont on sait qu'ils vont être compliqués, on se programme 30 minutes d'activité agréable. Ce qui est étonnant avec cette histoire...
Activité, ça veut dire un truc qu'on aime, pas forcément faire du sport.
C'est le truc qu'on aime. Ouais. Ça peut être de manger du chocolat avec des noisettes,
ou de jardiner,
ce que vous voulez. Et la faculté de Boston a montré que 64% des personnes qui avaient fait ça pendant deux mois...
C'est 3 choses que vous venez de nous décrire.
Toutes les semaines, allaient mieux, étaient de meilleure humeur, étaient en meilleure forme et finalement plus promptes à une renaissance, résilience.
Mais vous dites aussi, je crois, dans votre livre, qu'au-delà de tout ça, on est mieux psychologiquement, mais c'est aussi bon pour la santé physique, hein, je crois, d'être optimiste.
Ah ben bien sûr. Alors, il ne faut pas l'optimisme imbécile qui consiste à dire je me fiche du Covid, je suis protégé,
je ne
me lave pas les mains. Ça, c'est pas de l'optimisme, c'est juste totalement absurde. Mais par contre, un petit peu d'optimisme, on a moins de coagulation, on a moins d'adrénaline, donc du coup moins de risques vasculaires, on a plus de copains, plus de vie familiale, parce que malgré tout, nos conjoints, nos familles préfèrent nous entendre un peu optimistes qu'en permanence en train de ruminer des choses. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les optimistes décollent plus facilement des conflits. Quand vous vous fâchez avec un optimiste, il va passer à autre chose. Il va se dire, on s'est fâché, on n'était pas d'accord, mais ils ont une capacité d'adaptation plus grande.
Ce qui n'est pas le cas des automobilistes parisiens, mais je crois que c'est un autre débat.
Ça ne vous rend pas optimiste, vous, le trajet, je crois.
Non, mais j'ai lâché l'affaire, c'est pas grave, tant pis.
Vous pouvez leur laisser des livres comme ça au passage, vous les faites lire au volant.
Alors, vous proposez par exemple de renforcer notre côté canaille. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Canaille.
Ça, c'est étonnant.
Ça me va, ça. C'est pas mal, ça.
On s'est aperçu que ceux qui étaient les plus aventureux, les plus chercheurs de sensations, les plus preneurs de risques avaient finalement un cerveau plus actif, plus, c'est un peu faux, mais c'est pas si faux que ça, plus de dopamine dans le cerveau et étaient finalement plus exposés.
Comment on est canaille au quotidien ?
Eh bien, on est canaille au quotidien en faisant des choses nouvelles, en rencontrant une personne qu'on n'a pas rencontrée d'habitude, en essayant un vêtement, en essayant une couleur de vêtement
qui nous irait pas du tout,
qu'on n'a
pas l'habitude
vous voulez que je vous donne un
Jimmy en jaune canari, j'en suis sûr, ça vous irait super bien.
Et vous, Mélanie, pour demain, quelle couleur vous allez tenter?
Moi, je mets un peu toutes les couleurs, mais moi, peut-être des brillants, des paillettes, ça je mets jamais.
Donc ça va être demain, vous serez en brillant et en paillettes, vous allez voir comment vous développez votre côté canaille. Vous écoutez une musique qui n'est pas votre genre, vous prenez un livre qui n'est pas du tout dans le genre de livre dont vous avez l'habitude. Donc, un petit changement, une petite nouveauté va renforcer votre côté canaille.
Quand vous allez vous habiller demain, Jimmy ?
Comme aujourd'hui, je pense que malheureusement, je suis un triste personnage. Non, mais je vais essayer de mettre un peu plus de couleur.
Vous allez voir. Et vous direz qu'avec un peu de chance, ça fera peut-être monter votre dopamine.
Il va mettre du bleu plus clair et sera très très canaille. Hein. Ça sera déjà un énorme pas pour lui. Allez-y, Jimmy.
Quatrième temps de notre naissance, c'est le gérondif. Alors, c'est un temps que les moins de 20 ans, à mon avis, ne peuvent pas connaître. Mais c'est les verbes qui se terminent en « en », précisément, par exemple, en chantant, en mangeant, en riant. Et on peut l'utiliser pour mieux se connaître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, Alors, c'est les psychiatres anglais du King's College qui ont dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre temps présent, comme ça, soit plus agréable. Et là encore, les Anglais, de manière très pragmatique, disent qu'il faut trois choses. Un, il faut s'amuser. Vous voyez, on peut s'amuser
un peu. On est en train de s'amuser un petit peu.
Même quand on parle de choses extrêmement sérieuses, qui est de l'ordre de la résistance psychologique à la pandémie. Et ce sujet, on le voit tous les jours, n'est pas drôle. Mais ça ne nous empêche pas de cultiver quelques petits moments où on ne s'ennuie pas et on s'amuse. Le deuxième, c'est une relation à l'information. Il faut à la fois s'informer.
Ça, parce c'est que compliqué en ce moment.
Si on vous annonce un confinement, il faut savoir...
On est
savoir,
un peu trop informé même en ce moment, je crois.
Tout le sujet est là. C'est d'être entre l'absence d'information qui peut vous mettre en danger et l'obsession de l'information. Et le troisième, vous le faites dans vos métiers, vous le faites, Jimmy, tout le temps, vous le faites, Mélanie, c'est l'altruisme. C'est être ouvert à l'autre, c'est faire des choses pour les autres. Quand vous vous intéressez à votre voisin, quand vous vous intéressez à vos patients, quand vous vous intéressez à des gens que vous aidez, vous faites du bien et vous vivez mieux l'instant présent. Aujourd'hui, je pourrais le dire comme ça, un peu l'altruisme est une sorte d'égoïsme. On se fait bien, du bien en s'intéressant aux autres.
Pour mieux se connaître avec le Gérondis, vous expliquez qu'on peut prendre, il y a un petit exercice avec les six émotions principales, la joie, la colère, la peur, le dégoût. Et, par exemple, il faut se poser une question, se dire, bon alors prenons la joie, admettons, j'éprouve de la joie en...
Et voilà.
En chantant, en dansant, en coloriant, c'est ça ?
Absolument. Ça renvoie, vous savez, à cette phrase que disait un psychanalyste des années 30, qui disait, par exemple, vous voyez, je suis angoissé par la situation actuelle, cherchons-en un exemple. J'ai des moments où je suis rassuré, cherchons-en des exemples. Il faut, dans les moments de stress, comme nous les vivons, ne pas rester dans le flou, dans la généralité. Il faut incarner ces émotions par des expériences précises, et c'est par ces expériences aussi qu'on arrivera à un niveau global de meilleure humeur.
Merci beaucoup, professeur Lejoyeux, d'être venu sur notre plateau cet après-midi, nous aider à renaître dans ces moments compliqués pour tous les Français, pour ceux qui voudraient en savoir plus. Je ne peux que rappeler le titre de votre livre, donc Les Quatre Temps de la Renaissance chez Gisèle Attès. Merci encore, professeur.
Merci.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors passons à présent à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur la bronchite. Et oui, il n'y a pas que le Covid en ce moment. D'ailleurs, le coronavirus cause-t-il des bronchites ? Peut-être, on verra. Savez-vous quelles sont les causes principales des bronchites et comment ça se soigne ? Notre journaliste Benjamin Lévesque est allé tester vos connaissances sur le sujet dans la rue. On écoute son micro-trottoir.
L'infection des bronches, on tousse, une toux sèche qui est un peu, qui est râpeuse, qui fait mal.
Une bronchite, une inflammation des bronches tout simplement, comme son nom l'indique.
Il y a les poissons qui ont des bronches, je ne sais pas s'ils ont des bronchites. Les fumeurs peuvent avoir des bronchites.
Je pense que c'est comme tout ce qui est rhume, etc. C'est un virus qui s'attrape plus en hiver, je pense.
On peut l'attraper avec un coup de froid. Les personnes après qui sont assez fragiles en attrapent souvent.
Les fumeurs en fait qui peuvent attraper ça parce que la fumée de la cigarette tombe au niveau des bronches.
Ça peut être selon le degré d'inflammation des antibiotiques, justement.
Et chez les enfants, souvent, c'est des séances de kiné. En fait.
Du sirop contre la toux, un peu de doliprane, du repos.
Des aérosols, des choses qui peuvent aider un peu les bronches à reprendre un peu des couleurs et un peu d'espace et pas être qu'elles soient collées et étriquées entre elles.
Alors Jimmy, la bronchite d'abord, c'est quoi précisément ? Alors bon, on tousse, ça on le sait à peu près tous, mais pourquoi et c'est quoi finalement ?
Alors la bronchite, c'est l'inflammation des bronches, donc jusque-là rien d'extraordinaire, qui va effectivement vous donner de la toux dans un contexte souvent de rhinopharyngite. Vous avez une
ça,
nez
c'est
qui coule,
haut, la rhino, c'est
exactement,
vous avez
une nez qui coule,
gorge,
à la gorge, parfois un petit peu de fièvre, ça donne 38-38,5 pendant 24-48 heures, 3 jours au maximum. Et puis ensuite, vous allez avoir une toux qui va d'abord être sèche, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de glaire, vous savez, les molars qu'on va sortir.
Ça, c'est sec.
Ça, c'est sec.
Je ne vais pas faire la grâce derrière.
Oui,
je
crois que c'est du grand montage son. Je pense que d'histoire d'Europe 1, on n'a jamais entendu
c'est
un
juste
montage.
La toux sèche, c'est
oui,
tout.
C'est un grand moment de radio.
C'est un peu sonore, donc je voulais donner
un
exemple.
C'est un peu sonore, mais ça marche bien. C'est ça, la toux sèche. Mais les patients souvent ne savent pas faire la différence entre une toux sèche et une toux grasse. Grasse, vous avez des glaires, des molars. Et donc, ça va évoluer vers des sécrétions.
Non, regardez pas comme ça.
Non, surtout que c'est crade. Et à ce moment-là, vous allez tousser pendant quelques temps. Donc voilà, la bronchite, c'est on tousse avec un petit peu de fièvre qui reste légère et pas persistante.
D'accord. Est-ce que ça, le Covid, ça peut... On sait que le Covid fait tousser aussi. Est-ce que ça peut donner des sortes de bronchites ou c'est pas du tout pareil ?
Alors non, le Covid donne une pneumonie, c'est-à-dire une atteinte du parenchyme pulmonaire. Le parenchyme pulmonaire, c'est le tissu qui va faire marcher le poumon, alors que les bronches ne sont que les tuyaux, la tuyauterie qui va être inflammatoire. Donc c'est une atteinte qui est plus sévère dans le Covid, raison pour laquelle les malades font des formes un peu plus graves, alors que la bronchite dans l'immense majorité des cas, eh bien, ça passe tout seul.
J'allais vous dire, alors justement, la bronchite, c'est causé par quoi, du coup, si c'est pas le Covid ?
90% ouais. Des virus.
Des virus.
Des ouais. Rhinovirus.
D'autres virus.
Le virus, ouais. Vous savez, de la bronchiolite, le VRS, mmh. Qui va être la bronchiolite, c'est la bronchite des bébés.
Voilà. Chez nous, c'est la bronchite.
Exactement.
Chez l'adulte.
Ouais. Le virus de la grippe peut donner de la bronchite. Dans 10% des cas, simplement, c'est lié à une bactérie qui va éventuellement donner une surinfection
pulmonaire. Une pneumonie, du coup,
exactement,
c'est ça, c'est ce qu'on peut avoir. Moi, je me rappelle, j'avais eu une bronchite il y a quelques temps, et puis il y a des gens comme ça qui ont des bronchites qui traînent des semaines, des toux, c'est quoi ça?
Alors, on commet souvent une erreur, ouais. Nous les médecins, mais aussi les patients, de croire qu'on va guérir très vite d'une bronchite.
Ça peut être long.
Et qu'en 5 jours, il faut que ce soit réglé.
Le rhume, c'est 7 jours, mais là, c'est pas pareil.
Ça peut durer plus longtemps. À partir du moment où vous n'avez pas de fièvre, vous avez un bon état général, que vous ne crachez pas du matin au soir en permanence, eh bien, il n'y a pas de complications et ça ne nécessite pas d'antibiotiques. La surinfection est extrêmement rare.
Ça se traite comment, la bronchite, justement ?
Du paracétamol, du thé, du miel, du citron, et on attend que ça passe. Et si jamais il y a un critère de gravité, peut-être qu'il faudra des antibiotiques, si vous faites une surinfection bronchique, une sinusite ou une otite, mais encore une fois, la toux persistante qui traîne un petit peu, et même si vous crachez un peu sale, un peu verdâtre, c'est pas très grave. C'est un peu comme un avocat, ça mûrit. Oh. Mais oui, exactement,
non,
ça change de couleur.
Terminez-moi cette chronique là, ça
mais c'est pas dégoûtant. Mais vous pouvez garder donc les molars, vous arrêtez de me les montrer s'il vous plaît parce
les médecins, les patients vous les gardent.
Oui, ils me montrent les couches des bébés et les molars. Ah. Regardez docteur, non mais c'est bon, j'ai compris, c'est crade. Même pour moi docteur, je vous assure, c'est crade
c'est
les molars.
Pas vrai.
Donc voilà, mais voilà. Donc sauf la seule chose qui doit vous inquiéter.
Si vous recevez le docteur Jimmy Mohamed chez vous, arrêtez de montrer les molars.
Sauf s'il y a du sang. S'il y a du sang, il faut me le montrer, c'est important. Tout le reste, vous gardez ça à la poubelle et vous vous lavez les mains s'il vous plaît.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors n'hésitez pas et restez sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Vandel.
Demain, dans Culture Média, Mask Singer qui est revenu sur TF1. On sera avec le producteur et la première éliminée de vendredi, Frédéric Bell. Puis un documentaire sur l'ORTF raconté comme personne par Thierry Ardisson avec des archives exceptionnelles. On sera avec l'auteur de ce doc, Philippe Tullier. Et puis le chanteur Patrick Fiori pour son nouvel album.
Europe 1, Culture Média.
À demain, 9h, sur Europe 1.
Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. Pas d'Halloween sans monstres.
Et sans Monster Munch. Les petits fantômes les plus craquants sont sans huile de palme, sans conservateur, sans colorant et fabriqués en France.
Même pas peur.
C'est parce que ce sont de gentils fantômes. Et chez Leclerc, du 20 au 31 octobre, le lot de 2 paquets de Monster Munch de 100 grammes chacun, variété au choix, avec 30% de réduction immédiate est à 1,24€, soit 6,20€ le kilo.
Voir modalité, magasin Drive participant sur www.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Sans rendez-vous. 15h, 16h sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et c'est Catherine Blanc, tout de suite, qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, on va répondre à cette question de Pierre. Pierre nous a écrit, vous avez écrit à vous, Jimmy, alors vous allez la lire, la question.
Oui, je flash sur mon dermatologue que j'ai trouvé sur une application de rencontre. J'hésite à le contacter, c'est peut-être l'homme de ma vie et au pire, je pourrais changer de médecin. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai que ça paraît perturbant, une relation entre un médecin et un malade, puisqu'il le connaît. Mais si ce n'est plus son médecin, bah peut-être qu'il peut tenter quelque chose, non ?
Alors, évidemment, toute la difficulté, c'est évidemment qu'on ne peut pas mélanger les choses. Pourquoi ne pouvons-nous pas les mélanger ? Parce que ce médecin n'en reste pas moins un homme animé de désir, de sexualité, bien évidemment. C'est tout simplement parce que ce qui fait l'élan, il a flashé sur son dermato, l'élan, il est déjà vicié. C'est-à-dire qu'il y a l'élan pour un homme qu'on aurait rencontré dans la rue, mais il se trouve que c'est son dermato, c'est-à-dire celui qui le soigne. Mmh. Et donc, c'est une autre valeur qui rentre dans la qualité de la relation. C'est l'idée que c'est un soignant, quelqu'un qui va prendre soin de moi, qui va me réparer, qui va me.
Bon, après, si c'est pour lui soigner 3 boutons sur le visage, il va être traité et puis il en aura peut-être plus besoin d'ailleurs.
Alors à ce moment-là, effectivement, il faut pouvoir dire vous me plaisez, puisqu'il est sur une application ce médecin, donc vous me plaisez, mais effectivement, il faut sortir absolument du contexte médical parce que sinon, on est finalement dans quelque chose qui a des allures incestuelles. Alors je m'explique, celui qui soigne, c'est un parent. Donc il est dans un rôle de parent, dans un rôle de puissance aussi, à pouvoir soigner ou pas, tout en étant dans un rôle de jouissance partagée et donc là, on est dans quelque chose qui ne va pas, qui, indépendamment de la déontologie, bien sûr, ne va de toute façon pas.
Mais du coup, vous dites presque que la base de la relation est pas bonne, en fait, parce que même si ce n'est plus son médecin, vous dites que c'est malsain,
peu,
en fait. Donc d'emblée, en fait, il faudrait peut-être éviter ce genre de relation, mais imaginons que ça débouche, une fois qu'ils ne sont plus relation
médecin-malade. Oui, il y en a des histoires, on a rencontré, j'en sais rien, un médecin s'est marié avec sa secrétaire. Enfin, je veux dire, ça existe, évidemment, on peut tomber amoureux dans n'importe quel contexte.
Bien sûr, mais pas, parce que de toute façon, les relations amoureuses ou les relations de désir sont toujours fondées sur des idées de, que l'on a de, du pouvoir de l'autre et de ce qui fait l'attirance pour cet autre. Donc évidemment que le médecin va être automatiquement comme le professeur, comme...
On peut tomber amoureux de son patron, de son collègue.
De son patron, enfin, voilà, de son avocat, c'est-à-dire les personnes qui vous protègent, les personnes qui vous soignent, les personnes qui vous apprennent, qui vous font grandir, etc., etc. Donc il y a toujours dans la relation un peu de ça. C'est-à-dire qu'en dehors de ces métiers, il y a des gens qui sont dépourvus de toutes ces projections? Non. Donc la projection d'un parent protecteur ou d'un parent qui sauve, elle se fait de toute façon, mais qui plus est dans le cadre professionnel. Et effectivement, ça peut tordre la relation et mettre une sorte de hiérarchie un peu malsaine entre les deux.
Mais puisqu'il y a justement hiérarchie, vous dites, il l'a trouvé sur une application de rencontre, ce dermatologue. Donc, là, donc ça veut bien dire qu'à ce moment-là, sur l'appli, il n'est pas le dermatologue. Il est,
là, il est sorti dans la rue.
Un autre homme qui cherche l'amour, apparemment.
Voilà, lui-même est sorti dans la rue, lui-même s'est mis au rang de tous. Voilà. Sauf que lui, il revoit son...
Donc le mieux, c'est de le contacter via l'appli et pas en consultation.
Surtout pas dans la consultation, via l'appli et en précisant qu'ils se sont croisés et que ça pourrait être l'objet pour ce médecin qui pourrait, lui, ne pas trouver confortable justement d'être dans un lien avec un ancien patient. Mais sinon, dans dire cas, que j'ai été un ancien patient je ne n'ai plus l'intention parce que je voudrais pouvoir aller plus avant.
Néanmoins, du coup, si jamais la relation évolue, que ce soit une relation purement sexuelle ou une vraie relation, le médecin ne doit plus être le médecin personnel, on ne doit plus soigner quelqu'un avec qui on a une relation comme ça.
C'est interdit, je crois, d'ailleurs.
C'est même contre l'éthique médicale.
Oui, ceci étant, j'imagine que vous soignez vos enfants aussi, Jimmy, c'est-à-dire qu'on soigne aussi les gens que l'on aime. Donc c'est ça qui est difficile, mais par contre, ça ne peut pas être tarifé pour bien montrer que ce n'est pas sur un rapport de professionnel avec ce rapport très particulier qui se joue et qui est dans le cadre d'une application professionnelle. Alors que là, vous avez des compétences professionnelles, que vous agissez vous-même auprès de vos enfants ou de vos proches. Pour autant, ce n'est pas tarifé, donc vous le faites avec vos connaissances, comme un papa qui a des compétences. Mmh. Il pourrait avoir des compétences de menuisier, il se trouve qu'il a des compétences de médecin. C'est encore autre chose.
Et puis, si ça se finit bien, il aura perdu un médecin, mais gagné un mari, peut-être.
Et il aura peut-être gagné un mari. Ou pas, parce que l'homme de sa vie, on peut trouver que c'est l'homme de sa vie, parce que justement, on projette des choses extraordinaires. Donc, de toute façon, il faut essayer les choses pour les vivre correctement. Enfin, en tout cas, pour voir jusqu'où elles peuvent aller.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils. Demain, on se retrouve dans ce rendez-vous avec une émission consacrée à l'autisme. Que sait-on de ce trouble ? L'accompagnement des enfants autistes a-t-il progressé ? On fera le tour de la question, on tentera en tout cas.